deux histoires extrêmement importantes qui retiennent notre attention cette semaine sur la scène internationale. D'abord, évidemment, la nomination du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême américaine. Ça se dénoue aujourd'hui, là. Le vote du Sénat, c'est cet après-midi. Et l'autre histoire, c'est la Russie, encore et toujours, qui est pointée du doigt, mais pour la première fois cette fois-ci, qui est pointée du doigt par notamment le Canada et d'autres pays occidentaux, comme étant responsable de cyberattaques, d'espionnage sur les pays occidentaux. Donc, on va prendre ces deux affaires-là une à la fois, parce que c'est assez compliqué comme ça. Et pour être sûr, évidemment, de bien comprendre, on a demandé au meilleur vulgarisateur que je connaisse en la matière, c'est le prof Éric Arsenault, spécialiste de l'actualité internationale. Bonjour, prof Arsenault.
Bonjour, Paul Raphaël. Bonjour, Marc.
Salut.
Alors, si vous permettez, prof Arsenault, je résume. Brett Kavanaugh est pressenti pour être le prochain juge nommé à vie à la Cour suprême américaine par le Sénat. Voilà qu'une femme sort publiquement et allègue que Kavanaugh l'aurait agressé sexuellement pendant une fête bien arrosée il y a 36 ans, donc alors qu'ils étaient mineurs. Le FBI enquête pendant une toute petite semaine et ça nous mène à aujourd'hui, jour au cours duquel les sénateurs vont voter à savoir si Kavanaugh deviendra, oui ou non, juge à la Cour suprême. Ma question, prof Arsenault, le Sénat peut-il vraiment, oui, approuver sa nomination selon vous?
Oui, absolument. Je pense que c'est ce qui est actuellement dans l'air. Il y a, il faut le savoir, au Sénat, actuellement, un avantage aux républicains. Ils sont 51 au Sénat, qui compte 100 membres. Il y a 49 démocrates. Sauf qu'au cours des derniers jours et au cours des dernières semaines, on sentait qu'il y avait peut-être deux ou trois républicains qui étaient ambivalents au sujet de cette affaire-là. Des républicains qui hésitaient et qui laissaient soupçonner ou laissaient peser la menace de ne pas confirmer avec les autres républicains la nomination de Brett Kavanaugh. Sauf qu'il y en a deux de ces républicains qui étaient ambivalents hier, qui ont finalement décidé de se ranger et qui vont voter pour la confirmation. Il y a un démocrate également qui, lui, au contraire, laissait entendre, parce qu'il est en réélection actuellement et dans l'État où il est, il y a beaucoup de pro-Trump, alors quelque part, il y a certainement des vues et des visées électorales, et lui va se ranger avec les républicains et voter en faveur. Bref, même si au Sénat actuellement, on est 51 républicains, 49 démocrates, même si un républicain vote avec les démocrates puis qu'un démocrate vote avec les républicains, ça ne changera rien. Ouais. On s'attend cet après-midi donc à ce que, par une infime minorité, mais une petite marge, mais que malgré tout, le Sénat vote effectivement la confirmation de Brett Kavanaugh et ça va mettre fin à une saga qui dure depuis des semaines et des semaines.
Mais parce que la plupart des sénateurs qu'on a entendus dans les nouvelles dans la dernière semaine, c'était souvent, je sais pas si vous avez remarqué la même chose que moi, mais je pense que le témoignage de Mme Ford est crédible. Je pense qu'il n'y a pas matière à empêcher Kavanaugh d'être juge à la Cour suprême. Je pense que non. Mais à quelque part, l'enquête d'une semaine, ça, c'est de la poudre aux yeux. Je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment une vraie enquête qui a été faite en bonne et due forme à savoir si oui ou non il y avait quelque chose contre Kavanaugh?
Ben, on s'en parlait justement la semaine dernière dans cette même chronique. Une semaine pour mener enquête là-dessus, pour interroger les témoins, pour recueillir, pour corroborer les faits, ça semblait déjà, au début, assez court, merci, comme délai. Et le rapport qui a été rendu par le FBI a été ouvertement critiqué par les démocrates. Pourquoi? Parce que il semble qu'il y a plein de témoins qui auraient été, je pense, suggérés par les avocats de Mme Christine Blasey Ford qui n'ont pas été interrogés. On aurait décidé, pour une raison ou pour une autre, les démocrates disent que probablement parce que l'enquête a été dirigée politiquement, mais il y a plein de témoins qui, effectivement, n'ont pas été entendus. Et ça laisse un goût amer aux démocrates en disant, dans le fond, cette enquête-là est incomplète, elle a été bâclée, tout ça pour servir les fins politiques du président. Les républicains disent, au contraire, ce que le FBI a fait comme enquête, ça nous apprend absolument rien de nouveau. C'est le témoignage de l'un contre le témoignage de l'autre. Deux versions complètement irréconciliables. Et puis, dans le doute, on s'abstient. Puis c'est la présomption d'innocence qui prévaut.
OK. Autre histoire dont je voulais qu'on discute ensemble, prof Arsenault, c'est les fameuses cyberattaques russes, notamment sur l'Agence mondiale antidopage, là, parce que le Canada a ciblé la Russie comme étant les responsables pour la première fois là cette semaine. Mais depuis tout le temps qu'on parle de l'ingérence russe dans les élections puis les fausses nouvelles, je veux qu'on prenne ça au sens large, là, prof Arsenault. Est-ce que ça change vraiment quelque chose que le Canada ait ciblé la Russie cette semaine comme étant responsable? Parce qu'à quelque part, ça donne l'impression qu'on le savait tous déjà.
On le savait tous déjà, puis tu as parfaitement raison, et ça n'empêchera pas Vladimir Poutine de dormir, soit dit en passant, parce que ça fait déjà quelques années où, effectivement, il y a eu une accumulation de ces affaires compromettantes pour la Russie. Et ce que le Canada, cette semaine, comme information, laissait penser, on le savait déjà que l'Agence mondiale antidopage, dont le siège social est situé à Montréal, avait été victime de cyberattaques en 2016, des pirates informatiques s'étaient infiltrés dans les systèmes de l'AMA et ils avaient permis la divulgation d'informations confidentielles sur des athlètes, mais également sur les sources de l'Organisation mondiale antidopage qui avait permis de dévoiler l'espèce de gros scandale de dopage étatique dirigé en Russie. Alors, on savait déjà qu'il y avait eu cyberattaque contre l'AMA, sauf que cette semaine, ce qui est intéressant, c'est que les autorités canadiennes ont donné un petit peu plus de détails sur la nature de cette cyberattaque-là. Sauf que, Paul-Raphaël, cette attaque-là, il faut que tu la mettes dans le contexte d'autres attaques dont ont été victimes les Pays-Bas. On apprenait cette semaine que l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, qui enquêtait sur l'implication de la Russie dans la tentative d'assassinat d'un ex-agent russe au Royaume-Uni, qui avait été empoisonné avec sa fille, avec un agent innervant d'origine russe. Il y a une autre cyberattaque aux Pays-Bas qui visait les enquêteurs qui travaillaient sur l'écrasement, la destruction d'un avion de la Malaysia Airlines au-dessus de l'Ukraine en 2014. Ouais. Ça avait fait 300 morts et tous les soupçons se tournent vers la Russie. L'utilisation de missiles russes en soutien aux séparatistes qui sont là-bas en Ukraine. Ajoute à ça, dans le contexte, les tentatives d'ingérence dans la campagne électorale de 2016. Ouais. Bref, le portrait commence à être assez chargé. Il y a une espèce de modus operandi, là, et les Russes, en tout cas selon les Occidentaux, cherchent à déstabiliser les démocraties occidentales de toutes sortes de façons par ces attaques informatiques.
Mais ça reste que, sur le plan diplomatique, c'est extrêmement cow-boy comme manière de fonctionner, de s'ingérer comme ça par le web, les nouvelles technologies. Il n'y a pas un risque diplomatique derrière ça où les Russes s'en foutent éperdument?
Moi, je pense qu'il y a un risque calculé. Parce que, gardons en tête une chose. Vladimir Poutine, l'actuel président russe, est lui-même un ancien espion. À l'époque de la guerre froide, il a œuvré en Allemagne de l'Est, il a dirigé le FSB, les services de renseignement russes, après l'implosion de l'URSS. C'est l'homme de l'ombre et ça fait partie de ses techniques, ça fait partie de ses tactiques. Ce que Poutine cherche, c'est remettre la Russie au cœur de la géopolitique mondiale. C'est une question d'honneur, c'est une question de fierté pour lui et il n'y a pas à peu près tous les moyens pour ça. Ce qu'il veut, c'est laver un peu l'humiliation qu'a subi la Russie après la chute de l'URSS, la Russie qui est devenue un joueur négligeable sur l'échiquier mondial. Et Vladimir Poutine est en train actuellement, et notamment en déstabilisant, par exemple, avec les États-Unis, en s'en prenant à des agents étrangers qui sont passés à l'Ouest et qui pourraient éventuellement divulguer des secrets. Son but, justement, c'est d'essayer de déstabiliser ses adversaires, déstabiliser ses vis-à-vis, puis essayer de cette façon-là de rehausser un peu le statut de la Russie, disons ça comme ça.
OK. Merci beaucoup, prof Arsenault. Très éclairant.
Salut, bye-bye. Bonne journée, tout le monde.
À la prochaine. Éric Arsenault est prof en actualité internationale au Cégep de Jonquière.